Vous écoutez RTL.
Très bel après-midi sur RTL, 15h03. C'est donc l'heure de vous retrouver, Flavie Flamand, pour En effet, pour s'entendre. Bonjour Flavie.
Bonjour Maud de Carpentier. Maud, vous restez à notre écoute.
Absolument.
Je vous passe le relais à 16h pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. On simplifie le complexe d'Oedipe cet après-midi sur RTL en direct. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Quelles sont vos fleurs préférées ? M'avait-il lancé spontanément au milieu d'une phrase quand je l'interviewais. J'avais rougi et j'avais répondu des pivoines. Puis nous avions repris tout simplement le cours de notre entretien. Le lendemain matin, un magnifique bouquet de fleurs roses m'attendait sur mon bureau. C'était ça aussi Jean-Pierre Coff, un grand raffinement. On l'embrasse, on pense à lui. Soyez donc les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Et comme chaque jour, j'aurai plaisir à vous retrouver sur cette antenne et sur les réseaux sociaux si vous composez le 3210 ou si vous vous rendez tout simplement sur rtl.fr, sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Place au questionnement au sujet de ce jour. Quand je serai grande, je me marierai avec mon papa. Va-t'en, c'est moi qui dors avec maman. Pourquoi les petits garçons tombent-ils toujours amoureux de leur maman et les petites filles veulent-elles épouser leur papa? Quel est ce complexe d'un mec qui s'appelait Oedipe, qui a tué son père et qui a épousé sa mère? Avec la famille qui aujourd'hui se dévoile sous tant de visages différents, le complexe d'Oedipe est-il toujours d'actualité? On en parle avec nos deux invités en direct sur RTL. Juan David Nasio, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie.
C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Vous êtes psychiatre, vous êtes psychanalyste et vous êtes auteur de cet ouvrage, l'Oedipe, le concept le plus crucial de la psychanalyse. Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui, absolument, plus que jamais.
On va le développer, vous allez nous expliquer réellement de quoi il s'agit. Hein, l'histoire de ce mec, je disais il y a un instant, qui involontairement a tué son père et épousé sa mère un petit peu plus tard. Olivier Douville, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie.
Vous allez bien Olivier ?
À merveille.
Vous êtes psychologue, psychanalyste. Vous signez différents ouvrages. Alors aujourd'hui, je vais citer Les figures de l'autre chez Duno sur un autre sujet. Néanmoins, je vais rebondir sur le titre. Est-ce qu'on devient véritablement un autre quand on est passé par le complexe d'Oedipe ?
On devient un autre dans la mesure où on peut aller davantage vers les autres.
Oui, ça, il faut, ça veut dire qu'il faut savoir passer par cette, ce caractère fusionnel, il faut savoir défusionner de nos parents pour exister par soi-même et justement être capable d'être en relation avec autrui.
Voilà une très belle définition.
Merci beaucoup. Bon, bah aujourd'hui, c'est bien parti. J'ai deux invités qui visiblement me suivent. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter pour définir le complexe d'Oedipe, Juan David Nasio ?
Alors, l'Oedipe est une flambée d'érotisme.
Oui. Mm-hmm. Chez l'enfant.
Chez un petit garçon ou une petite fille entre 3 et 6 ans, mm-hmm. vis-à-vis de ses parents, sa mère ou son père. Ça, c'est ça l'Oedipe. L'Oedipe, c'est une excitation sexuelle, je dirais infantile, bien sûr. C'est pas la sexualité de nous adultes. L'Oedipe, c'est un petit garçon qui a envie d'aller s'approcher du corps de la mère.
Je ne suis pas votre maman, Juan David.
Parce que
si vous allez sur RTL.fr, Juan David se penche vers moi.
Voilà.
Je ne suis pas votre maman, tout va très bien.
Alors je reste tranquille. Mais
pas de flambée d'érotisme, Juan
voilà,
David.
Voilà, c'est ça. Donc c'est le petit garçon, alors je reste tout sage,
oui.
C'est le petit garçon qui aime s'approcher du corps de la mère,
oui.
Et lui sentir l'odeur.
D'accord.
C'est le garçon qui aime se pencher aussi sur le décolleté de la mère et regarder les seins.
Oui.
C'est l'enfant, et je le cite dans mon livre, c'est le petit garçon qui entre dans la salle des bains à petits pas, en silence. Il y a la maman, je la connaissais la maman,
oui.
Une femme très belle,
oui.
En culotte, nue en culotte, en train de se maquiller. Il lui donne le dos et l'enfant entre dans la salle des bains et à la hauteur de ses yeux, il y a les fesses de la mère. Il s'approche et il mord les fesses de la mère. Eh bien, l'Oedipe, c'est ça. Sentir les odeurs, mordre les fesses de la mère, regarder, s'exhiber, etc.
Ça veut dire que c'est découvrir des émois jusqu'alors inconnus, mais dans une version totalement infantile. Mais est-ce que ça vaut pour les petites filles aussi ?
Absolument.
Parce que là, vous nous parlez des petits garçons.
Alors,
maman.
La petite fille, c'est le cas où la petite fille a envie de s'asseoir à
sur
cheval
les mmh.
sur les genoux de son papa, et son papa lui chante une comptine. Lui, tout à fait innocent, et la petite fille de se frotter l'entrejambe pour sentir le plaisir. Ça, c'est ou bien la petite fille qui va et se met debout pour faire pipi aussi. Il y a un côté garçon.
Alors là, c'est le psychiatre et le psychanalyste que vous êtes qui parle. Olivier Douville, est-ce que, quand je résume aussi, parce que là on parle effectivement de flambée d'érotisme, de découverte d'une sexualité, je rappelle vraiment à ceux qui nous écoutent qu'on parle de l'enfant, des émotions vraiment de l'enfant, donc c'est tout extrêmement pur, c'est extrêmement... Est-ce que c'est aussi une histoire d'affection? Quand moi je le résume en disant, bah, c'est une petite fille qui veut épouser papa, c'est un petit garçon qui tombe amoureux de maman. Est-ce qu'il y a aussi des sentiments dans le complexe d'Œdipe?
Il y a de tout.
Oui.
Il y a cette espèce de balai entre l'excitation du corps et puis le sentiment. Il y a cette espèce de moment où le sujet veut toucher le corps, se rapprocher du corps. Il sait que ce n'est pas si facile que ça. Il sait que ce n'est pas licite. Il sait que c'est interdit. Et puis, il y a toute cette interrogation parce qu'il n'a pas encore tout pour comprendre.
Oui.
Ce que provoque en lui cette excitation, ce que provoque en lui cette pression à aller regarder ces petits morceaux de corps que l'on devine chez le père ou chez la mère. Mais est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Et pour comprendre, il s'invente. Il s'invente des émotions, il s'invente de l'amour. Il s'invente un conte de fées qui appartient à tout le monde, mais qu'il prend pour lui ou qu'il prend pour elle. Un jour, il sera enfin... Le mari de sa maman ou l'épouse de son papa. Et c'est un jeu. Ça ne veut pas dire qu'il y croit. Mais ça veut dire qu'il a besoin de se raconter ce genre de berceuse sentimentale pour peut-être donner un sens à ses excitations.
Alors, avez-vous vécu cette fameuse berceuse sentimentale, comme le dit si bien Olivier Douville? Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance où vous vouliez épouser votre parent donc du sexe opposé? Est-ce que vous êtes vous-même, en tant que parent, confronté à ce genre de choses en ce moment? Ce sont des périodes, donc on l'a bien compris, troublantes, mais nous, on va simplifier l'histoire. Et dans un instant, nos invités vont vous raconter l'histoire d'Œdipe. À tout de suite, évidemment, avec vous sur RTL. On va donner la parole à Valérie, qui va nous parler de ses enfants, justement. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Aujourd'hui, on parle du complexe d'Œdipe. Christelle soulève cette question que l'on va développer, Christelle, évidemment. Et dans une famille homoparentale, comment ça se passe? Aujourd'hui, le complexe d'Œdipe vous est raconté par nos deux invités, qui sont Juan David Nasio, qui est psychiatre et psychanalyste, Olivier Douville, qui est psychologue et psychanalyste. Donc, à un moment donné, on a les deux personnes idéales pour pouvoir essayer de simplifier ce que l'on appelle le complexe d'Œdipe. Un message avant de donner la parole à Valérie. À 5 ans, je me rappelle avoir dit à ma grand-mère maternelle dans sa cuisine, moi quand je serai grande, je me marierai avec papa. Ma grand-mère m'a répondu que je n'avais pas le droit. J'ai fondu en larmes, c'était ma première déception amoureuse, la première d'une longue série, nous écrit Juliette. Est-ce que cette période du complexe d'Œdipe, Olivier Douville, peut avoir une influence sur notre relation à l'autre à l'âge adulte?
Une influence tout à fait importante. Les premières solutions que l'on trouve quand on est petit pour dire, avouer, énoncer son désir, elles continuent avec nous à grandir. Et s'il y a beaucoup de choses que nous civilisons par la maturation, par le vieillissement, notre rapport au corps, à la propreté, à l'hygiène, il y a un continent de notre esprit qui demeure un peu rebelle à la maturation et qui concerne les fantaisies érotiques. Donc, de ce fait, oui, nous sommes encore un peu fidèles à cela. Mais, bien évidemment, d'autres composantes rentrent dans l'intérêt érotique et dans l'amour que l'on peut porter à une partenaire ou à un partenaire.
Évidemment, mais là on parlera évidemment de l'interdit avec vous, puisque sa grand-mère a dit à Juliette, tu n'as pas le droit. Et quand même pointer du doigt, c'est quelque part rendre coupable un enfant qui n'est pas conscient de ce qui se passe.
Pour nous, les psychanalystes, comme Olivier ou moi-même, l'Œdipe est au cœur de ce qui va être plus tard, chez l'adulte, une névrose.
C'est ça.
Ça veut dire une mauvaise façon d'être en relation avec les gens.
Ça vient de l'Œdipe.
Eh oui, Flavie. Eh oui. C'est-à-dire que, alors vous me direz, mais comment ça? Expliquez-moi.
Mais comment ça? Expliquez-moi.
Eh bien, quand les problèmes de l'Œdipe, c'est pas que l'enfant a envie, c'est génial ça. Ouais. C'est la manière comment l'adulte l'arrête.
Exactement.
Si le papa qui a la petite fille sur les genoux, il chante une comptine et il voit que la petite fille se frotte, et s'il lui dit arrête, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est très mauvais. Mmh. Si par contre, il lui laisse tranquille qu'elle se frotte, c'est très mauvais. C'est-à-dire, l'indignation ou le laxisme, c'est très mauvais. Alors, le père doit dire, attends, non. Ou bien, non, on ne fait pas ça.
Ça ne se fait pas.
Non, c'est pas ça, c'est fait.
On ne fait pas ça.
Voilà. Parce que si vous dites, ça, c'est fait pas, c'est comme la grand-mère qui dit, non, tu ne dois pas. Non, il faut simplement, très détendu, de dire... Non, attends. Comme ça, je ne joue pas. Alors là, tu descends du genou. Non. Si tu vas faire ces mouvements comme ça, non. Si tu vas te frotter ou jouer comme ça avec l'entrejambe, non. Non. Tu descends. La même chose avec les garçons.
On va donner la parole à Valérie, si vous le voulez bien, puisque Valérie va nous éclairer de son témoignage. Bonjour Valérie, comment allez-vous?
Bonjour Fabie, bien, merci, et vous?
Ben, ça va très bien, merci en tout cas de nous suivre si fidèlement. Vous allez nous parler de Jules et de Julia. Jules, c'est votre petit garçon de 9 ans. 9 ans quand même, hein?
9 ans quand même, oui.
Comment ça se passe avec Jules? Quelle relation avez-vous?
Ah, très fusionnel. Ça tend à diminuer, on va dire, petit à petit, parce qu'en plus, moi, je travaille aussi là-dessus.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est tout lié, mais j'ai allaité Jules pendant 3 ans, mais tout en faisant attention à ce que le papa garde sa place. Mm-hmm. Et je me suis toujours dit que peut-être que cette fusion venait peut-être de là. Est-ce que c'est aussi parce que c'est un petit garçon? Je me suis posé pas mal de questions.
Qu'on va faire, Valérie, c'est que on va essayer de répondre ensemble à toutes ces questions. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL, peut-être aussi le temps de rétablir la ligne qui n'est pas idéale pour nous pour pouvoir profiter de votre témoignage. On se retrouve tout de suite, mais en attendant, allez, ça va durer 7 ans. Non, c'est pas 7 ans, mais c'est le titre en tout cas de cette chanson. À tout de suite, Valérie, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Juste avant de reprendre Valérie, car visiblement on a quelques petits problèmes de liaison avec Valérie, pourtant son témoignage est extrêmement intéressant. Une question que nous avons reçue de Mériol, messieurs. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est mieux d'avoir un complexe d'Œdipe ou pas? Je ne me souviens pas d'avoir eu d'attirance pour mes parents. Alors, le complexe d'Œdipe, Juan David Nazio.
Ça arrive à tout le monde. Tous les enfants, quel que soit le pays, en général, il y a des cultures. Et Olivier sait qu'il y a certaines cultures qu'il ne se confirme pas, mais globalement, on peut dire que tous les enfants entre 3 et 6 ans, petits garçons, petites filles, sont pris de cette flambée d'érotisme. Mais, je termine, pas tous les enfants. Il y a des enfants avec un degré moindre, il y a des enfants avec un degré plus net. Ça varie, mais sachant que ça existe de façon universelle.
Olivier Douvier, je veux revenir sur le message de Mériol. Je ne me souviens pas d'avoir eu d'attirance pour mes parents, mais on n'en est pas conscient. C'est surtout ça, en fait.
Bah, on peut ne pas dire. En être...
Ou en tout cas, on n'a pas souvenance de cet état d'une façon précise.
Alors, je dirais qu'on peut avoir des souvenirs précis, très certainement en fonction de la réponse que les parents ont apportée. C'est généralement ces éléments de réponse qui constituent le cœur des souvenirs qui restent à disposition. Et puis, certaines de nos impulsions, de nos élans, sont effacées par ce que nous appelons le refoulement. Et on peut très bien, en considérant à l'âge adulte les parents que nous avons dans l'état où ils sont, trouver absolument extravagant cette invention freudienne.
Voilà, maintenant, à notre âge, mais peut-être pas entre 3 et 5 ans. Valérie, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Ah, génial. Alors, Jules, il a 9 ans. Vous l'avez allaité jusqu'à l'âge de 3 ans.
Oui.
Vous nous dites que vous avez une relation fusionnelle avec Jules. Si vous pouviez développer cette idée, comment ça se passe?
Très proche. C'est un petit garçon qui, pour l'instant, refuse... Alors, on est en train de le travailler. Il n'a pas envie d'aller dormir chez quelqu'un pour un week-end, par exemple.
Il ne va pas dormir chez des potes?
Non plus.
D'accord.
Chez les copains encore, bon, à 9 ans, ça ne s'est pas encore lui trop présenté. Par contre, aller dormir chez une amie pour que papa et maman partent un week-end, pour l'instant, c'est pas envisageable. Enfin, jusqu'à présent, ce n'était pas envisageable. Et là, on en parle tout doucement, parce que nous, on veut un petit peu aussi
qui boulache.
C'est ça. Parce que même moi, je commence à être prête, mais lui aussi, je pense qu'il est prêt aussi.
Alors, c'est voilà. Intéressant parce qu'on va parler de la co-responsabilité, évidemment, dans cette histoire, ça. Valérie. Où est-ce qu'il dort, Jules ?
Ah, il a sa chambre.
D'accord, donc il dort dans sa chambre.
Il a toujours eu sa chambre, il a dormi longtemps dans la nôtre.
Ah, d'accord. Depuis quand a-t-il pris son indépendance, ce jeune homme, pour aller dormir dans son lit maintenant ?
2 ans et demi.
Depuis 2 ans et demi ?
Non, depuis l'âge de 2 ans et demi.
Depuis l'âge de 2 ans et demi, d'accord, oui. Ok. Est-ce que vous sentez, parce que vous avez bien compris la subtilité du sujet, hein, oui. Très bien raconté par Juan David Nasio et par Olivier Douville, est-ce que vous sentez effectivement une sorte d'attraction physique de la part de Jules ? Est-ce que vous sentez que c'est un petit garçon qui recherche en permanence le contact avec la peau de sa maman ?
Il est très bisou, très câlin. En ce moment, justement, moins quand même, ça serait tout doucement, ce que je vous dis, ça commence à ça diminue. Hein.
D'accord.
Il y a eu juste ce week-end, ça m'a fait tilt, on s'est fait un bisou, et il m'a dit, maman, tes bisous, ils sont trop bons.
Bah oui, mais ça, c'est évidemment. Et où est-ce que vous embrassez votre petit garçon ? Pardon, ouais, est-ce que vous l'embrassez ? D'accord, ça vous arrive de lui faire un bisou sur la bouche ?
C'est déjà arrivé, mais alors, par contre, lui, pour le coup... me dire non maman, pas sur la bouche.
D'accord, ok. Alors là, moi je trouve qu'on est dans une situation qui me semble assez claire. Alors Valérie, elle nous explique à Juan David Nasio ce caractère fusionnel. Elle explique qu'elle-même commence à avoir envie, je dis ça qu'il vous lâche, hein, mais c'est une façon parce qu'on est tous passés par là, mais envie que ce petit bonhomme aussi vive un peu sa vie. Et voilà, enfin moi, ça, tout ça mais me semble à peu près... Il a 9 ans quand même.
Oui, il a 9 ans.
Ça aussi, parce que même lui, il commence à... Voilà.
À exprimer un besoin
non,
de...
D'abord, je trouve que les choses évoluent bien. Bien surtout pour la mère, pour le père et pour l'enfant. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que Jules, c'est l'enfant le premier, c'est l'aîné. Donc, probablement, cette maman a été folle de joie d'avoir s'occuper du petit enfant. Et l'enfant, il est, en particulier dans l'Édipe, il a été très, très pris par cette flambée, comme je dis, d'érotisme. Et là, nous avons une maman qui, en toute innocence, a donné suite à cela. Et le problème, c'est, s'il y a un problème, parfois les parents me demandent, mais docteur Nasio, pourquoi je ne peux pas dormir avec mon fils ? Arrêtez, c'est un truc moral que vous voulez. Non, c'est pas moral. C'est parce qu'un enfant de 6 ans a la mère, le contact avec la mère fait que l'enfant va développer une sexualité, une sensualité précoce. Le problème, c'est dans la précocité. C'est-à-dire, il faut pas qu'il s'excite trop tôt.
Ah bah oui.
Il faut que nous, les êtres humains, le mieux qui peut nous arriver, et je termine, c'est que nous nous excitons lorsque notre tête peut intégrer l'excitation. C'est-à-dire qu'on peut nous exciter sans pour autant nous sentir dépassés.
Valérie, vous êtes la maman d'une petite Julia, elle a 5 ans. Alors c'est intéressant, vous allez nous raconter son histoire dans un instant, parce que Julia, c'est une petite fille donc, qui a été, que vous avez adoptée hein, avec votre mari. Et vous allez nous raconter justement la relation qu'elle entretient avec son papa. Vous ne bougez pas Valérie ?
Je ne bouge pas.
Nous non plus, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous Valérie, vous êtes toujours là, vous nous expliquez il y a un instant la relation que vous entretenez avec Jules, votre fils de 9 ans, que vous avez allaité jusqu'à l'âge de 3 ans, qui a quitté votre chambre à l'âge de 2 ans et demi, donc bon, ça y est, il est en train de sortir du nid progressivement et naturellement vous en avez envie, comme visiblement il en a envie également. Et puis juste après est arrivée donc une petite Julia, elle a 5 ans, et alors la différence entre Julia et Jules, c'est que Julia est une petite fille adoptée.
C'est ça.
Comment ça se passe justement avec votre compagnon, votre époux ?
Julia, quand elle est arrivée à la maison, elle a mis quelques jours à l'observer au départ. C'était vraiment de l'observation.
Oui.
Et du jour où elle s'en est réellement approchée, parce qu'elle allait vers lui tout doucement, mais sûrement, en le touchant, en repartant, enfin voilà, c'est des allers-retours. Et le jour où elle a commencé à le toucher, elle ne l'a plus lâché. Ça a été ça. Julia, quand je la gronde, c'est je veux papa, point. C'est quand papa est là, de toute façon, moi j'ai toujours ma main sur le cochon, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant parce que Olivier Douville, ce que Valérie nous explique, c'est que Julia, jeune fille, petite fille adoptée, entretient elle-même et est en plein complexe d'Oedipe avec son père adoptif. Donc le complexe d'Oedipe, ce n'est pas une histoire de lien du sang.
Non, ça ne peut pas se réduire à une histoire de lien du sang. C'est une histoire entre plusieurs personnes, entre plusieurs partenaires qui développent entre eux des liens d'amour, d'affection, de séduction. Voilà. Et on peut très bien... Il y a des sociétés, si je peux dire, qui ont décidé, par exemple, que le lien du sang n'était pas le plus important, qu'il fallait que l'enfant trouve comme éducateur quelqu'un d'autre que le père biologique. Ce sont des solutions que des sociétés inventent différemment. La société occidentale met un grand prix dans la question des liens du sang. Mais ce que Freud a inventé, en écoutant ses patients, en réfléchissant à sa propre histoire d'enfant et en pensant que les grands auteurs de tragédies grecques avaient déjà anticipé ce qu'est le drame humain par excellence, ce que Freud a inventé, ce n'est pas une histoire de lien du sang, c'est une histoire de lien de désir.
Voilà, de désir et d'affection donc dans l'esprit des enfants.
Et de demande d'amour.
Et de demande d'amour, de réciprocité. Valérie nous explique que quand Julia est avec son papa, elle n'existe plus, à l'instar de Julie qui nous écrit « Nous sommes en plein dedans, ma grande de 7 ans et ma dernière de 4 ans ne voient plus que par leur père. Quand il est là, maman n'existe plus. » Juan David Nazio, est-ce que le complexe d'Oedipe passe systématiquement par le rejet du parent du même sexe ?
Pas systématiquement, mais souvent... Le parent du sexe opposé est écarté ou délaissé. Et souvent, les parents sont préoccupés par cela. J'ai des pères qui viennent me disent « Mais docteur, ça va pas, je sens que mon garçon ne m'apprécie pas, etc. » Ou l'inverse.
Oui.
Il faut dire que ce sont des moments, ce sont des étapes.
Mais c'est pas facile, hein ?
Non, mais il faut un ami, un grand-père, l'auditeur qui nous écoute et qui va savoir ça, qui lui dise à la personne de sa famille en disant « Écoute, j'ai écouté l'émission des Flavie Flamand, eh bien, ils disent que ce sont des moments qu'il ne faut pas se préoccuper. »
Il ne faut pas s'en inquiéter, en tout cas. Il faut être vigilant en tant que parent pour apporter la bonne réponse. Valérie Olivier Douville, quand elle explique « Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien que Jules il vive un peu sa vie et qu'il me laisse quelque part retrouver votre mari. Hein. » C'est ça, Valérie, que vous nous dites. Hein. Partir en week-end avec votre homme.
Moi, à l'instar de Julia, par contre, Jules, il a jamais... repousser son papa.
Oui, c'est ça. Bah, ils n'ont pas toujours la même façon. Voilà, de...
Alors, c'est beaucoup maman, mais quand papa est là, c'est beaucoup papa aussi. Voilà, tandis que Julia, c'est papa, papa. Voilà.
Les parents ont une responsabilité. Valérie, quand elle dit « Bon, bah, quelque part, Olivier Douville, je veux retrouver mon mari », c'est-à-dire pouvoir reprendre ma place de femme aussi vis-à-vis de mon mari, ça aide les enfants à sortir de l'Oedipe. Et les parents, d'ailleurs, aussi. Parce que les parents, ils ont leur responsabilité aussi dans cette histoire.
Bien sûr que ça les aide à structurer leur Oedipe. Et c'est très charmant, hein. Une petite fille, un petit garçon qui est comme ça, dans la grande déclaration d'amour, dans l'excitation que l'on doit modérer. Mais enfin bon, le destin de notre désir et de notre libido se joue avec
d'autres.
Avec d'autres, voilà. Donc bien sûr, et je pense quand même que lorsque cet enfant dit « pas sur la bouche », il a compris quelque chose d'essentiel.
Exactement, ouais, c'est bien.
Ce n'est pas comme ça qu'il a envie d'être rassuré.
Hein, on a des messages qui vont dans ce sens-là, justement. Certains auditeurs disent « non, c'est pas grave d'embrasser son enfant sur la bouche ». D'autres qui, au contraire, trouvent ça très mauvais. On va développer cette idée-là avec vous, messieurs, dans un instant. Mais auparavant, Valérie, je voudrais vous remercier. Je me permets de vous embrasser. Et puis, du coup, j'embrasse Jules, Julia, votre mari, toute la famille. Quoi. Oui. Voilà.
Merci, c'est gentil. Allez, merci. J'embrasse aussi.
Mais pas sur la bouche, évidemment, comme le dit Olivier Deville.
Non, pas sur la bouche. Non, on y restait. En fait, quand je disais sur la bouche, c'est vrai que par moment, c'est encore de maman de se trouver avec un tout petit et qui s'effondre bien heureusement. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous remercie. Bonne fin de journée, Valérie. À bientôt.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Mériole sur Twitter, merci beaucoup, c'est très gentil à l'équipe d'avoir répondu à ma question. Mais c'est comme ça que ça se passe dans On est fait pour s'entendre. Vous nous envoyez vos questions, vous nous envoyez vos réactions sur les réseaux sociaux, on les récupère en direct et puis on en parle avec vous sur cette antenne et avec nos invités aujourd'hui qui sont Olivier Douville et Juan David Nazio, tous les deux psychiatres, psychanalystes. Alors, embrasser ses enfants sur la bouche, dormir avec ses enfants, c'est normal, Juan David, qu'on ait envie de le faire quand ils sont petits?
Oui.
Ils ont des petites bouches, on dirait des petites framboises, on a envie de leur bouffer la bouche.
Oui, mais il faut se retenir. Ah. Pour lui.
D'accord.
Pas pour la morale, mm-hmm. Pour lui, parce que, il ne, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas l'exciter. Ça, ça excite à l'enfant. Il ne faut pas exciter les enfants trop. Mm. Et deuxièmement, attention, parce que par exemple, dans les cas de Jules que nous avons vu tout à l'heure, Jules est un enfant trop fusionnel avec sa maman. Donc à ces moments-là, il se sent fort, il se sent bien dans la maison. Mais dès qu'il est dehors de la maison et il doit affronter les difficultés de la vie scolaire ou autre...
Oui, aller dormir chez un copain.
Voilà, c'est un enfant angoissé. Donc nous trouvons cette équation souvent, enfant hyper fusionnel avec la mère ou avec le père, en général avec la mère. Et parfois, c'est un enfant roi dans la maison, c'est l'aîné souvent, c'est l'enfant unique souvent.
Ou le petit dernier.
Ou le petit dernier, absolument, Flavie. Ou le petit dernier.
La fille qui n'est pas du tout concernée par le sujet du jour.
Et puis, dehors de la maison, c'est un enfant peureux.
Oui.
Donc... C'est un enfant angoissé, qui hésite, qui doute, qui se tait, qui ne parle pas, etc.
Alors, dormir avec les parents, ça a été le cas par exemple du petit Jules dont nous parlait Valérie il y a un instant. Jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, il a dormi avec moi, avec nous, embrasser nos enfants. Donc Juan David nous dit, bon bah oui mais non, il ne faut pas le faire, ou en tout cas,
il ne faut pas l'exciter contre mes
yeux. D'accord. Donc ça veut dire aussi qu'il faut couper court très vite à cette période d'Œdipe, Olivier Douville?
Ah non, il ne faut pas couper court très vite, c'est entre 3 et 6 ans généralement, c'est ce
d'accord.
qui a été dit.
Donc ça veut dire qu'à l'âge de 6 ans,
il faut accompagner.
C'est ça.
Il faut accompagner l'enfant. Effectivement, je ne peux qu'attester qu'il y a des enfants, surtout des petits garçons, qui vont demander à ne pas quitter le corps de la mère et qui vont mettre en avant une angoisse qui est là. Et comme l'enfant se présente comme angoissé, on ne peut pas lui faire cette mauvaise blague de se séparer de lui. Et là, il y a quand même un petit cercle vicieux qui s'installe, puisque on va le rassurer avec la fusion, alors que la fusion, c'est précisément ce qui angoisse.
Bien
voilà.
sûr. C'est à nous en tant que parents, on a bien compris la co-responsabilité qu'on a dans cette histoire, donc c'est à nous d'expliquer à l'enfant que nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses. Ça c'est une
et
chose.
Et d'accepter aussi que l'enfant dise je ne suis pas d'accord.
Oui.
Parce que parfois l'enfant met des distances,
oui.
C'est pas du désamour.
Et le parent essaye de rattraper.
C'est pas du désamour, c'est qu'il a envie d'être considéré comme un sujet qui va grandir.
Olivier Douville, est-ce que l'autre parent a une responsabilité, justement? Ce parent qui est censé, entre guillemets, ne plus exister pendant cette période d'Œdipe, comme nous l'écrivaient certaines de nos auditrices en disant voilà, ma fille n'a Dieu que pour son père. Est-ce que l'autre parent, celui qui est, entre guillemets, délaissé, a justement un rôle, c'est-à-dire défusionné?
Alors ça,
qu'est-ce
c'est une question. Ça me fait rire un peu parce que c'est une question extrêmement œdipienne, puisqu'on pourrait s'imaginer, c'est le triomphe en quelque sorte de l'Œdipe, qu'un des deux parents est hors jeu. Non, jamais les deux parents ne sont hors jeu.
J'entends.
Les deux
Mais parents, pour les
parents
ont
une responsabilité.
Oui.
Alors le parent qui se sent délaissé, dire qu'il n'est pas l'objet de tentatives de séduction de la part de sa fille, si c'est une dame, ou de son garçon, si c'est un monsieur. Ce parent, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
D'accord.
Qu'un enfant souligne.
Mais est-ce qu'il a un rôle à jouer, justement, pour permettre la défusion?
Mais évidemment.
Alors, qu'est-ce qu'il doit faire?
Eh bien, d'abord,
récupérer sa femme, récupérer son mari.
Oh, si tant est que...
qu'il l'ait perdu,
si
je rigole.
Si tant est que ce soit un vrai rival.
Plaisante, évidemment.
Voilà, on peut pas toujours parler en termes d'eux comme si c'était un vrai rival, et je sais que tu plaisantes. Mais effectivement, affirmer qu'il est désirant, qu'il est peut-être l'objet d'un désir, et de couple. Voilà, c'est très important. C'est pas parce que un parent n'est pas l'objet de manœuvres de séduction
oui,
de la part de son enfant, qu'il n'a rien à lui transmettre, ni aucun rôle à jouer, bien au contraire. S'il s'efface, il ne fait que renforcer le vœu oedipien qu'un des deux parents n'existe plus. Et à ce moment-là, il se met complètement à jouer cette dynamique de l'Oedipe, mais ce qui est angoissant pour un enfant, encore une fois, c'est quand les parents ne résistent pas. C'est le parent se met à être séduit par l'enfant et l'autre se met à se sentir désavoué, délaissé, abandonné. Là, c'est tout à fait angoissant pour tout le monde.
Juan David, vous avez levé la main, je vous donne la parole.
Simplement, par exemple,
la maîtresse
pour Jules. Jules va dormir dans les grands lits.
Oui.
C'est au père de le prendre calmement, ou bien, même en pleurant, il va la ramener. Parce que je sais que beaucoup d'auditeurs savent que ça, c'est un problème fréquent. Il faut le prendre, l'amener à son lit, l'enfant pleure, le père reste là. C'est gênant pour lui parce qu'il doit se réveiller. Donc, il faut que le rassurer soit l'œuvre non seulement de la mère, mais que le père sache aussi le rassurer. Donc, il faut que l'enfant apprenne à qu'il y a un autre adulte, son père ou sa mère, ça dépend de la situation, qui aussi sait le rassurer.
Alors là, on vient de parler, depuis le début de cette émission, des familles dites traditionnelles. Mais la famille, elle a plein de visages aujourd'hui, complètement différents. Parfois, il y a de papa, parfois, il y a de maman. Eh bien, on va en parler dans un instant avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Avant de parler de ces familles que l'on peut trouver aujourd'hui, qui n'offrent pas simplement qui offrent le visage d'une famille, mais pas traditionnelle comme celle que l'on a étudiée depuis le début de l'émission, un message de Laura. Je n'ai pas le souvenir d'avoir développé enfant ce complexe d'Oedipe avec mon père. Néanmoins, aujourd'hui, je trouve que mon mari a beaucoup de points communs avec mon père.
Mais.
Pourquoi vous me regardez comme ça, messieurs? J'ai l'impression d'avoir senti. Mais est-ce qu'à un moment donné, effectivement, on peut se dire que cette phase d'Oedipe vis-à-vis de nos parents conditionne aussi nos choix amoureux?
Absolument.
Voilà. Est-ce qu'on court après notre père? Est-ce qu'on cherche notre mère dans
Moi, j'ai dit que une femme choisit son compagnon en suivant son père du point de vue superficiel, mais choisit son compagnon en suivant la relation profonde, viscérale avec sa mère. Il y a les deux. Mais oui, réfléchissez. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui se demandent ça parfois, en particulier lorsqu'il y a une dispute avec le mari. Oula. Elle dit « J'en ai marre !» Et le mari lui dit « Mais moi, j'en ai marre !» Et alors elle lui dit « J'en ai marre ! J'en ai eu déjà ma mère et maintenant c'est toi !» Ben oui, c'est très fréquent.
D'accord. Merci, docteur Nasio. Alors, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, Olivier Douvier, ce fameux complexe d'Oedipe aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un vieux complexe éculé dans une société qui, aujourd'hui, permet à des couples de devenir des parents, des couples homosexuels, de devenir parents?
Alors,
est-ce que, finalement, on peut développer un complexe pour une personne du même sexe?
Et bien sûr. Le complexe, on le développe très aisément dans des tas de configurations différentes. Non, ce qui est éculé, c'est de penser que pour qu'il y ait un complexe d'Oedipe, il faut une mère, et qu'une mère, ça va ? Puis un père qui fait la loi, et puis un petit môme qui essaye d'exciter tout ce monde-là.
D'accord.
Ça, je crois qu'effectivement, c'est une configuration de la famille qu'on ne retrouve absolument pas partout. Bon, donc, sans entrer dans tous les détails, il y a eu énormément de débats avec les anthropologues, du temps même de Freud, qui disaient, mais enfin, les familles au lointain, ils allaient tous dans les îles Trobriandes, très très accueillantes, les îles Trobriandes. Famille au lointain, ça ressemble pas à papa, maman, et puis les enfants. Bon, aujourd'hui, il y a des familles décomposées, recomposées. Ce qui est sûr, c'est que la famille reste. Elle peut rassembler... Deux femmes. Est-ce que c'est deux mamans?
Alors, pardon, deux femmes et une petite fille. Moi, je pense à des auditeurs et des auditrices qu'on aime beaucoup ici, qui sont Christelle, Céline et la petite Maggie.
Voilà. Donc, le désir de famille reste. Les formes de la famille changent. Mais le désir de la famille reste. C'est ce qu'on a vu avec le mariage.
Oui, mais ça veut dire que, par exemple, pour une petite fille élevée par ce qu'elle appelle, elle, en tout cas, ses deux mamans, est-ce qu'elle va développer un complexe d'Œdipe vis-à-vis de l'une de l'autre?
Bon, d'abord, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont démontré à l'évidence que les enfants qui sont élevés par des couples qu'on dit homosexuels, ne développent pas une propension à devenir homosexuels et n'ont pas plus de problèmes, ni moins, que les autres. Bon, ce qui laisserait supposer que il doit se jouer cet opérateur, cette opération qui permet d'être mature, qui s'appelle le complexe d'Œdipe. Et puis, ce n'est pas parce que le couple est un couple de femmes qui lesbiennes ou d'hommes homosexuels que les deux personnes sont identiques.
Dans leur rôle, vous voulez
dans
dire.
Dans leur rôle éducatif.
Donc ça veut dire que l'un est plus paternant, l'autre plus maternant.
Mais
voilà.
Mais oui.
Et c'est basé donc sur la vision que l'enfant peut avoir de chaque parent,
Juan David Nazio. Tout à fait. La vision que l'enfant peut avoir... Et la vision que chacun des deux peut aussi avoir.
D'accord.
Voilà, absolument. C'est-à-dire tous les enfants, en particulier les enfants d'une famille monoparentale, comme on dit, c'est-à-dire homoparentale, plus exactement, c'est-à-dire les deux mères sont homosexuelles ou les deux pères sont homosexuels, l'enfant, de toute façon, spontanément, naturellement, va sentir l'un des partenaires du couple comme étant une maman et va sentir l'autre comme étant un papa. Ça, c'est indiscutable et ça se confirme systématiquement.
Donc, ça veut dire que cette vieille histoire de ce vieux grec qui s'appelait Œdipe, qui a tué son père pour épouser sa mère, et je invite tous ceux qui nous écoutent, s'ils ne connaissent pas l'histoire, elle est forcément passionnante. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? J'en fais un résumé, là, très court. Non, mais très court parce qu'on n'a pas le temps. Mais ça veut dire que cette histoire, en fait, qui date d'il y a très très longtemps, s'adapte avec la société d'aujourd'hui.
2500 ans.
Voilà, alors
2500.
Eh bien, elle évolue
Sophocle,
aussi.
Sophocle, 2500. Il y a eu cette idée géniale d'inventer l'idée qu'un petit garçon va naître d'un père et d'une mère. Et ce petit garçon, et les dieux lui disent aux parents, écoutez, votre enfant va vous tuer, va tuer le père et il va coucher avec vous, madame. Les parents deviennent fous, ils l'abandonnent au milieu de la campagne, ils croient qu'il va mourir, le temps passe. Au contraire, il est recueilli par un berger et à ce moment-là, il grandit. Finalement, il va dans un chemin, une route. Dans la route, il trouve un type. Il se fâche avec le type. Il le tue et c'est son père qu'il tue sans savoir qu'il tue son père. C'est ça qui est important. Il ne sait pas qu'il tue son père.
Pour finalement accéder à un trône.
Il arrive. Ça c'est.
Faire engueuler. Mais je vous fais un résumé là.
Un petit point. Un petit point parce que c'est très intéressant. Ça va.
Très,
vous les
avez
auditeurs
10 secondes.
Vont aimer. À un moment, il arrive à la ville de Thèbes et il y a les sphinx qui lui dit. Qui est l'animal qui marche à quatre pattes au début, deux pattes ensuite et trois pattes encore, et c'est l'homme. Et là, Œdipe va être roi des Thèbes et donc
épouser sa mère
Jocaste. Sans savoir que c'est sa mère.
Sans savoir, c'est exactement ce qu'on voulait dire. Non, c'est bon. Hop, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, petit 1, merci Paul pour votre tweet qui nous fait rigoler. Petit 2, Jean-Xavier qui dit « Je ne vais pas être original, émission très intéressante, merci. J'adore quand vous faites preuve de cette banalité. » Vous avez raison Jean-Xavier, c'est passionnant tous les jours. Merci beaucoup Juan David Nazio. Voilà, je vous ai coupé la chic, mais je vous aime beaucoup, c'est parce qu'on n'avait pas le temps. Et je rappelle votre ouvrage, « L'Œdipe, le concept le plus crucial de la psychanalyse ». Je vous embrasse, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Olivier Douville, à la prochaine. Et votre ouvrage, « Les figures de l'autre » chez Duno. Messieurs, vous nous écouterez demain, on va donner la une à notre ego, justement. Certains l'ont blessé, d'autres absents, sans compter ceux qui l'ont surdimensionné. Et vous, comment va votre ego? Notre ego est-il notre ami ou notre ennemi? Je vous demande pas de développer Juan David, on n'a pas le temps, mais une prochaine fois avec plaisir. Non.
C'est mon thème.
À demain 15h en direct sur RTL. D'ici là, ne ratez pas Julien Courbet pour une émission spéciale Journée Portes Ouvertes. On continue l'émission hors antenne. Je vous embrasse et vous dis à demain. Tout de suite, voici Laurent Ruquier. Et à propos d'ego, voici les grosses têtes. À demain.
Vous écoutez RTL.